Vos désirs sont des échos ou des égaux. Mai 2006. Note des éditorices. Ce texte a été publié sur le site gendertrouble.boom.org. L'auteur s'adresse donc spécifiquement aux contributeuristes de ce site, issus de la communauté LGBTQIA+. C'est le petit matin. Elle a dormi une partie de la nuit tournée contre moi. J'étais toute la nuit sur le dos, elle se collait à moi. À certains moments, elle posait son bras sur mon torse pour tenir mon épaule. À d'autres, elle m'entourait de sa jambe et enfonçait sa tête dans mon cou. C'est le petit matin, je m'éveille un peu. Je suis toujours sur le dos, elle est tournée de l'autre côté. Je veux me lever contre elle, me caler dans son dos. La serrer doucement, ne pas la réveiller. Me rendormir contre elle. Je suis toujours sur le dos. Je regarde son épaule. Je regarde le plafond. Son épaule. Le plafond. Son épaule. Le plafond. Je suis toujours sur le dos. Elle dort. Elle respire. Je l'aime. J'essaye de respirer. Je suis toujours sur le dos. Toujours, toujours. Je ne peux pas me tourner, je ne peux même pas glisser ma main dans son dos. Mon corps est immobile, le jour, la nuit. Des sangles invisibles contiennent mes mouvements. Toujours, toujours. Ça n'est pas un fantasme éveillé. Ça n'est pas un jeu. Ça s'appelle un corps handicapé. Je ressens, j'ai envie, mais... Je vois le plafond. Je suis le plafond. J'essaye d'assassiner mon envie. Je cherche à évanouir mon esprit qui visualise en boucle le geste de me tourner contre elle. Je déteste mon corps. Je déteste qu'il se soit réveillé. Pas qu'il se soit réveillé à côté d'elle, mais qu'il se soit réveillé en moi. Je serre la mâchoire, ça ne se fait pas de crier au petit matin. Pourtant, j'ai une fois de plus ce silence qui hurle et la rage qui ne peut se frapper qu'à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que le plafond va me pleurer dessus. J'ai peur que depuis son sommeil, elle perçoive ma rage. Je ferme les yeux, j'écoute sa respiration. La respiration est un des rares mouvements sur lesquels je peux me caler. Je suis son rythme, ça m'apaise. Je veux sentir mes poumons contre les siens. Je ne comprends pas pourquoi tout murmure en moi « tourne-toi contre elle » puisque c'est un geste qui n'appartient pas à mon corps. Ce geste, il n'a jamais pu le faire et il sait surtout qu'il ne le fera jamais. J'aimerais parvenir à désintégrer ces gestes mentaux. J'aimerais me rendormir contre elle. Que sa présence me montre une fois de plus que c'est possible. Ce truc qu'elle sait faire, dénicher les failles dans mes murs, nous y glisser. Je ne vais pas la réveiller, je ne vais pas lui demander qu'elle m'aide à me tourner, ni qu'elle vienne contre moi. Je vais me réveiller du plafond qui me nargue et de la rage qui aveugle les possibles. Je détiens une solution. Qu'un autre corps que le mien ou le sien fasse les gestes. Ça veut dire décorporaliser mes gestes. Ça veut dire expliciter et formuler clairement mes envies dès le réveil. Ça veut dire temporiser mes désirs. Ça veut dire médiatiser ma gestuelle. Ça veut dire opérer une cassure dans le rythme du petit matin pour tenter de le poursuivre. Ça veut aussi dire appeler l'assistant de nuit qui dort dans une pièce à côté de la mienne, que je sollicite lorsque j'ai besoin de soulager une douleur des membres ankylosés. La peur est de réveiller ma partenaire lorsque je vais devoir appeler, à la voix, assez fort. Peur d'ailleurs que l'assistant soit déjà parti. J'hésite plusieurs minutes. Je regarde le plafond. Plus j'attends, plus il y a de chances que l'infirmière, qui entre sans précaution pour me lever tous les matins vers 8h30, arrive. Je me décide et j'appelle. Par chance, l'assistant entend du premier coup. W entre discrètement dans ma chambre. Je n'ai pas envie de regarder son visage. Je souhaite qu'il reste cette ombre debout à côté de moi, comme venant du sommeil. Même je préférerais que ce ne soit qu'un robot sur commande. Je chuchote à l'ombre que je veux me tourner de ce côté. L'assistant découvre la couette, positionne ses mains sur ma hanche et mon épaule et me pivote. J'aime ses gestes, silencieux, discrets. Je lui demande de rapprocher mon bassin contre celle qui dort à côté de moi. Il hésite. Il a appris à n'exécuter que des gestes médico-techniques. Je ne veux pas qu'il tarde, je ne veux pas la réveiller. Plus près d'elle, je chuchote fermement. Il cale son corps à mon corps, que je sens enfin respirer. Je souris dans sa nuque. L'assistant me recouvre de la couette. Je lui demande de poser mon bras autour d'elle. Il emmène mon bras vers son ventre, un peu maladroitement. Elle attrape mon bras, glisse sur ma main. Elle soupire, comme un sourire. Je la serre doucement, elle colle son corps au mien, je ferme les yeux. L'assistant sort. Je suis immobile contre elle, de cette immobilité connectée, qu'elle seule m'a appris peu à peu à vivre, à ressentir et aimer. Ce n'était pas vraiment une histoire, c'était juste un geste, se rendormir contre quelqu'une. Ou alors chacun de mes gestes est une histoire. Des histoires de gestes vers les autres que je ne lis jamais dans Gender Trouble, ni ailleurs. De ces gestes dont personne ne parle, de ces mouvements naturels qui ne semblent pas être concernés par une démarche de déconstruction. J'ai lu beaucoup de gestes qui sont désirés et effectués. Ces gestes efficaces et performants, qui répondent à des désirs, qui enchaînent des envies et des plaisirs. Ces gestes qui se composent entre amants, pas forcément d'intimité mais de technicité, la validité synchrone. Les textes que je parcours sont composés de codes gestuels valides, implicites et construits. Toute cette gestuelle non dite d'évidence conforme, à lire entre les lignes voire en plein dedans, n'est questionné nulle part dans ce que j'ai pu lire de vous-même qui prétendait justement déconstruire la pratique de vos corps et de vos désirs. Toute cette gestuelle non dite, d'évidence conforme, à lire entre les lignes voire en plein dedans, n'est questionné nulle part dans ce que j'ai pu lire de vous-même qui prétendait justement déconstruire la pratique de vos corps et vos désirs. Avec les autres. Je parle de ces autres, c'est nulle part. Qui ne peuvent pas conformes ou qui ne ressentent pas conformes et qui ne le formulent pas forcément. Le fait que vous acceptiez et reproduisiez tout naturellement ces dispositifs surjoués de mouvements vers autrui et surtout leur codification stratifiée, à la fois m'exclurait d'office de tout rapport avec vous si je gardais le silence et me permet de vous désigner comme étant les valides. Pourtant, je lis souvent comment les valides prétendent à la déconstruction de leur rapport de corps. Alors je souris du jaune au vert. Quand une nouvelle amante ou amant valide se retrouve devant moi, je trouve bien plus souvent dans son corps de la désorientation, de la désillusion, de la démotivation, de la désolation, de la désatellisation, de la désincarnation, de la désafférentation. De la décomposition et surtout de la désertion. Vous, vous avez parlé de déconstruction. Hein ? Moi et mon corps en dit, immobile et ultra sensible de plaisir et de douleur, on n'a pas grand-chose à déconstruire. parce que cette société est architecturée pour les valides, configurée pour leurs corps efficaces, cadencée pour leurs mouvements équilibrés, accessibilisée pour leurs rencontres et contacts, organisée pour leurs plaisirs. Mes fistes n'ont rien haï et branlé. Pourtant, j'ai lu des gestes désirés et retenus. Mais cette retenue, qu'elle génère une sensation de contrôle, choix, ou provoque de la frustration ou de l'impuissance, reste uniquement contextuelle. J'entends par là, non seulement qu'elle peut évoluer, se modifier avec vos amantes et amants. Ce qui n'est pas le cas d'un corps comme le mien, qui ne détient, contient, qu'un état irréversible, un statu quo, mais aussi que vos expériences contextuelles de frustration ou d'impuissance ne semblent jamais perturber la structure valide de vos rapports humains. On peut lire dans Une élève douée, note des éditeurs, texte du site gendertrouble.boom.org qui a été retiré depuis. Je me rappelle faire du sexe sous la douche, debout, allongé sur son bureau, le chevauchant de côté dans toutes les positions que nous pouvons imaginer. Je n'ai pas vos pratiques. Peut-être laissent-elles la place à des expériences hors du cadre de la performance, sans être vécues comme des défaillances. Peut-être que vos performances ne sélectionnent pas vos attirances. Permettez-moi d'en douter. Et de vous faire remarquer que dans vos écrits sur vos pratiques, dans l'énonciation de vos réflexions, vous poursuivez une recherche des fonctions corporelles optimales et surtout, vous conservez une grille de lecture validiste. Comme intouchable, hors de toute critique ou questionnement, hors de toute ébauche de déconstruction. Chers et chères valides, qu'est-ce que vous pensez déconstruire dans vos rapports de corps alors que la plupart de vos gestes sont inconscients et ou reproduits? Si la déconstruction, c'est s'enculer avec une bière bio, alors mes amantes et amants et moi, on a une révolution à vous montrer. Je me permets de vous suggérer quelques troubles dans vos genres validistes. On peut lire dans « Mon plaisir est à moi », note des éditeurs, texte du site gendertrouble.boom.org qui a été retiré depuis. Mon plaisir revêt une dimension toute particulière dès lors que je le maîtrise entièrement. Prendre du plaisir seul me rend moins dépendant des autres individus. C'est chouette l'autonomie, surtout quand on sait ce que la dépendance implique. Une des valeurs qui semble la plus prônée dans les textes que je lis, c'est la valorisation de l'autonomie de plaisir. Ouais. C'est où je veux, quand je veux et comme je veux. Transformez donc en « c'est où je peux », « si je peux », « tant que je peux encore ». Mon corps en dit n'a quasiment aucune autonomie de plaisir. C'est-à-dire que je ne peux pas me masturber quand et comme je le veux. Vos textes sur la masturbation génitales sont bien mignons, mais il n'est jamais décrit qu'entre le moment où vous avez ressenti l'envie de vous toucher et le moment où vos mains atteignent vos sexes. Vous vous êtes peut-être déplacé dans un espace, vous vous êtes isolé, vous vous êtes positionné plus ou moins confortablement dans un lit, un bain, etc. Vous vous êtes plus ou moins déshabillé, vous vous êtes peut-être déplacé dans un espace, vous vous êtes isolé, vous vous êtes positionné plus ou moins confortablement dans un lit, un bain, etc. Vous vous êtes plus ou moins déshabillé. Vous avez bougé vos jambes, votre bassin, vos bras. Vous avez peut-être attrapé des objets pour vous donner du plaisir. Quelqu'un qui a un corps comme le mien ne peut effectuer aucun de ces gestes. Je ne peux me toucher que la nuit, c'est-à-dire quand je ne suis plus dans mon fauteuil et qu'une assistante ou un assistant m'a allongé et déshabillé. Ce qui est inconcevable à demander la journée. Les services professionnels dits d'auxiliaires de vie refusent et condamnent, atteinte à la pudeur, exhibe, etc. Toute demande du genre. Seule ma main droite, si bien positionnée, peut bouger un peu, pas beaucoup. Bientôt, je ne pourrai plus, du fait de la dégénérescence musculaire engendrée par la maladie. Néanmoins, encore suffisamment pour me donner du plaisir. néanmoins insuffisamment pour explorer seul l'ensemble de mes désirs. Ensuite, il n'est jamais vraiment explicité comment deux corps valides se rencontrent. Jouer à se battre, danser, rejoindre quelqu'une dans un lit, partager des activités physiques, se masser. Je ne dis pas que ça déclenche forcément du désir entre deux personnes, mais implicitement, ça peut. Et cet implicite met hors jeu un corps handicapé qui ne dispose d'aucun mouvement, ou pas les mêmes. Sous-entendu ou sous silence. Je ne rêve pas de sous-silence, mais d'hyper-silence. Je rêve de métacommunication où le corps fonctionnel n'aurait pas une si évidente dominance et détermination. Je rêve que le corps soit un vecteur modulable, pas un exécuteur. Je vis le corps, l'expérience du corps avec quelques rares personnes inqualifiables, ultrasensibles, monstrueuses, déprogrammées, connectées, poètes. La plupart de mes mouvements vers les autres passent par la parole. On aurait tendance à penser que les désirs ne s'énoncent pas, que formuler un désir le tue. Tout comme le silence m'isolerait des corps valides. J'ai encore beaucoup à apprendre pour communiquer mes mouvements de désir aux autres, pour trouver l'équilibre entre le silence qui immobilise et l'explicitation qui peut provoquer un sentiment d'enfermement à autrui, pour trouver des mots traduisant les gestes qui se voudraient anonymes. Ça peut faire de moi quelqu'un de maladroit ou muet. Ce n'est pas facile. Rien ne m'a appris à générer du mouvement depuis mon immobilité, ou votre immobilité. Je parle d'un immobilisme, celui de tous vos mouvements mécaniquement cadencés, régularisés, comme une grosse machine qui ne veut pas ou ne cherche pas à fonctionner avec des rouages non homologués. Il y a quelques années, j'avais tendance à considérer mes amantes et amants comme des êtres extraordinaires, ces gentils valides qui osent me toucher, ma vie en 16/9 de la Belle et la Bête. Depuis, j'ai désillusionné, tant mieux. J'ai dissipé la magie pour observer les constructions sociales. Mes amantes et amants restent pour moi des personnes hors du commun. Mais je ne suis plus la bête. Et leur caractère extraordinaire peut m'énerver, comme si seuls des êtres d'exception pouvaient atteindre l'exception qu'est un corps handicapé. Quand la marge est créée par la norme, plutôt que la norme soit perturbée par la marge, je suis un corps dénué de référence pour les valides, du moins pour la plupart des valides.